Bonjour Bruno.
Bonjour Issa. Aujourd'hui, adaptation littéraire. Avec comme livre à l'honneur, c'est God Bless America. C'est une adaptation de Pierre-François Radis d'un roman de Richard Morgeve qui s'intitule Le Cherokee. Alors, Pierre-François Radis avait déjà mis en image une adaptation littéraire d'Al Capone, et là, il se trouve avec un roman noir qui se déroule dans les années 50 dans l'Utah, état de l'Ouest américain. Pierre-François Radis met en image les ambiances sombres, tourmentées, avec un dessin riche de ce travail de fusain où le blanc est réservé aux bulles. Autant de raisons pour nous entretenir avec Pierre-François Radis à partir de 14h15. Et puis il y aura aussi Buzzelli, Zelba et une prève importante. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez entendu, il y a Issa qui est en régie. Un couac, on ne sait pas d'où ça vient, mais on trouvera. Et je voudrais démarrer avec une brève qui concerne l'édition, puisque la boîte à bulles est désormais nommée Pictavita. Et son créateur, Vincent Henry, a été licencié. Alors derrière cette situation, il y a une vision de l'édition qui n'est pas très réjouissante. Et d'ailleurs, Vincent Henry est en procès avec les Humano qui avaient racheté cette maison d'édition, la boîte à bulles. Alors quelques précisions. Il y a en 2003 la création de cette maison d'édition par Vincent Henry qui choisit une ligne éditoriale exigeante avec une approche différente de ce que font les éditions habituelles et donc va travailler sur des thématiques précises, sur la partie documentaire mais aussi avec le suivi d'auteurs comme Jean-Louis et Philippe Coudray, et donc le très beau succès de l'Ours Barnabé. Et puis, il y avait donc un bel ensemble éditorial. La maison d'édition compte plus de 400 titres, ce qui est tout à fait remarquable. Et il y a donc en 2017... Les humanoïdes associés, dirigés à cette époque déjà par Fabrice Guiguerre, qui est un homme d'affaires, qui avait monté une maison d'édition en Suisse, Alpen Publisher, qui était avec un petit catalogue et qui rachète la boîte à bulles. Donc ce type de rachat est fréquent dans l'édition, puisqu'on a des éditeurs qui passent sous le giron d'un éditeur plus important, qui ainsi garantit la ligne éditoriale de cette maison d'édition et assure, dans la mesure où il y a une sorte de pérennité, d'équilibre dans les comptes, eh bien, la mise en place de ces catalogues, de ces lignes éditoriales exigeantes. Et puis tout récemment, alors ça c'est cette année, l'année 2025, eh bien il y a eu une augmentation au capital de la boîte à bulles par les humanoïdes associés, qui était une façon d'en être totalement propriétaire, et Vincent Henry a été licencié. Seulement, ce rachat de la boîte à bulles par les Humano n'a jamais été honoré, et donc c'est les sommes que réclame Vincent Henry au tribunal, ce qui est pleinement légitime. Alors, cette actualité devient d'autant plus importante que les Humanoïdes Associés, qui est une maison qui est basée à Los Angeles, ses bureaux sont à Los Angeles, il y a un bureau parisien. Eh bien, il y a des cessations de paiement et aux États-Unis, la société est en redressement judiciaire. Donc ça, c'est l'arrière-boutique de l'édition. C'est une des possibilités et qui montre la fragilité de ces maisons d'édition qui réussissent à œuvrer, et donc de 2003 à 2025. Ce fut une très belle aventure pour la boîte à bulles et qui peuvent donc être victimes plutôt d'hommes d'affaires qui n'ont plus grand-chose à faire avec la bande dessinée, si ce n'est que de chercher des contrats juteux avec des adaptations cinématographiques. Mais ce n'est pas ça qui fait l'essence même de la bande dessinée. Alors je peux vous conseiller les très bons articles de Antoine Houry qui dans l'actualité univers du livre a écrit plusieurs articles sur les Humanoïdes Associés, la boîte à bulles, et là ça sera tout à fait complet. Shadok. Ah, ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est un peu cette image de verre qui se casse. Bah, c'est un peu ça. Une maison d'édition peut se retrouver fracassée. Et c'est toujours avec un énorme pincement au cœur qu'on peut, on suit ça. Alors, je voudrais démarrer ces livres qui encadrent le livre de l'invité, donc aujourd'hui God Bless America. C'est le tome 3 des œuvres complètes de Buzzelli publié par les Cahiers Dessinés. C'est un livre qui est beaucoup plus ancien, il n'est pas de l'année, il n'est pas des mois récents, mais je n'avais pas pu le présenter, je vais présenter les deux premiers tomes de ces œuvres complètes. Et là, maintenant c'est possible, donc je le fais, parce que l'œuvre de Buzzelli, et de Guido Buzzelli, pour être plus précis encore, est tout à fait remarquable. Et ce tome 3 est d'autant plus remarquable qu'il complète admirablement l'œuvre même de Guido Buzzelli, que nous on a connu, on a découvert avec, par exemple, La révolte des ratés. C'était il y a pas mal d'années. Alors le projet des Cahiers Dessinés, c'est vraiment de regrouper dans une très belle collection ce travail de l'artiste italien qui est illustrateur, auteur de bande dessinée, et peintre, et qui a un travail d'image remarquable. Alors, je vous donne les présentations, la précision de la quatrième de couverture qui va permettre de vraiment situer ce tome 3. À la fin de l'année 1970, Adelina Tatilo, première éditrice féministe et libertaire italienne, c'est pas peu dire, décide de lancer un magazine d'un genre nouveau, l'hebdomadaire érotico-comico, Ménélique. Parmi ses collaborateurs permanents, elle cherchait un dessinateur qui sut tout faire. L'anatomie féminine dans ce qu'elle a de plus alléchant, des couvertures percutantes, des bandes dessinées, des vignettes satiriques et des illustrations coup de poing, mêlant érotisme, humour et charge sociale. Adelina Tatilio chercha et elle trouva Guido Buzzelli. Alors, ce que l'on découvre dans ce recueil, c'est par exemple toutes les doubles pages, puisque en fait la collaboration de Guido Buzzelli s'est faite à travers des doubles pages qui étaient très satiriques, à travers des couvertures qui parodiaient celles du petit journal du début du XXe siècle, et puis deux bandes dessinées, deux histoires courtes. Alors, ces doubles pages satiriques mêlent horreur et jubilation, stupre, furie et grand guignol. Et Buzzelli se montre comme un artiste cruel, comme par exemple Willem ou Charb peuvent l'être. Et il y a donc une mise en scène de ce qui peut être réprouvé, comme par exemple Sade est un cruel. Et sans aller dans ces extrêmes, Guido Buzzelli a une capacité à représenter l'anatomie humaine et notamment l'anatomie des femmes, qui fait que il y a cette ironie permanente, cette truculence qui, dans chacune de ces doubles pages, avec des titres assez étonnants et qui relèvent également l'humour du style « Vive la nouvelle année », une page de pub, « C'est le carnaval », »,« Rien à déclarer », ça se passe aux douanes, « Le cher disparu », ça se passe dans un cimetière, « Elsa Popine », là c'est plutôt par rapport aux artistes de cirque, et c'est réjouissant. Il y a une façon d'entremêler les différentes scènes qui forment un ensemble, il n'y a pas de case, tout est à proximité, tout est relié, et c'est, on va dire, où est Charlie avant l'heure, mais avec un fond beaucoup plus réjouissant. Buzzelli, œuvre 3, les cahiers dessinés, histoire courte, illustration et satire, les cahiers dessinés, qui sont dirigés par Frédéric Pajac. C'était publié en 2021, je tenais à vous le dire. Les 144 pages de ce très beau recueil sont au prix de 24 euros et le livre a été imprimé en Suisse. Cette fois, nous retrouvons les moustiques. Voilà, après vous avoir donné ce repère dans le dessin et dans le dessin anatomique que représente Guido Buzzelli, c'est vraiment un phare. Je voulais évoquer, par rapport à la mise en scène, un livre qui précise les différentes approches et la façon dont moi j'essaye de vous présenter ce qu'est la mise en scène en bande dessinée. Le huitième livre, Tintin, Hergé, les coulisses d'une œuvre, vient de paraître. Il s'agit du Spectre de Tocard. Alors, c'est paru fin novembre 2025. Le prochain est à la fin du mois. Et l'intérêt de ces coulisses d'une œuvre, c'est qu'on a une présentation d'une des histoires, et c'est fait dans la chronologie, d'Hergé avec son personnage mondialement connu Tintin, et c'est à partir de l'ensemble des documents qui sont dans les studios Hergé, dans les archives des studios Hergé, et qui représentent une somme remarquable et qui permet de donner à la lecture de l'œuvre beaucoup plus d'épaisseur. Et on peut ainsi voir l'évolution du dessin d'Hergé, puisque la plupart de ses premières histoires en noir et blanc, toutes les histoires en noir et blanc, sauf le Lotus Bleu, ont été entièrement redessinées. En complément de ce nouveau dessin, il y a le changement de mise en scène. Et c'est là où ces coulisses d'une œuvre sont remarquables, parce que les versions noir et blanc étaient en trois bandes d'images, avec trois hauteurs de bande régulières. On avait un espace de la case toujours important, puisque Hergé n'est pas un dessinateur qui utilise le gros plan et qui en abuse, mais qui, au contraire, va souvent avoir des plans assez larges et qui inscrivent les personnages dans un décor. On est tout le temps dans ce contexte de l'histoire, et le trois bandes en noir et blanc fait merveille. Le remontage des histoires pour pouvoir tenir dans 62 pages parce qu'il y avait une pénurie de papier au moment de la guerre et donc la nécessité de diminuer le nombre de pages, on est passé aux quatre bandes. Donc tout au long de ces coulisses d'une œuvre, nous pouvons voir la différence entre le trois bandes qui est maintenant colorisé, donc on a encore plus de proximité, et la version quatre bandes faite par les studios Hergé, qui est celle que l'on connaît dans les albums qui sont en vente aujourd'hui. Et donc là, on a vraiment cette différence de fonctionnement, cette différence de lecture, cette différence d'approche, les qualités de l'une et les qualités de l'autre. Et ça permet de comprendre aussi toute la démarche des auteurs qui cherchent à avoir cette régularité dans la mise en scène, trois ou quatre bandes, tout ça pour avoir aussi une efficacité narrative pleine et entière. Et là, on a vraiment le travail de montage, la page en trois bandes et la page en quatre bandes pour quelques exemples, et c'est tout à fait remarquable. Donc, c'est une collection qui sort tous les deux mois, qui tient pleinement son intérêt. Tout le temps. Donc, Tintin Hergé, le sceptre d'Autocar, le tome 8 des coulisses d'une œuvre, c'est écrit en collaboration avec entre Philippe Godin et Dominique Maric. Philippe Godin qui a été président du studio Hergé, de ses archives, qui connaissait absolument parfaitement l'œuvre d'Hergé et qui est décédé en 2024. C'est donc Dominique Maric qui prend la suite avec tous les écrits auparavant de Philippe Godin. Donc, ce livre que l'on trouve aussi dans le réseau des périodiques, des tabacs, donc, est au prix de 20 € et il fait 112 pages. Et c'est vraiment une collection remarquable. Musique.
Until the end.
Pierre-François Radis est un artiste nomade. Formé à l'école d'art Émile Cole à Lyon, il y enseigne aujourd'hui la sculpture. Il est également illustrateur d'albums et de bandes dessinées pour la jeunesse. Il honore régulièrement des commandes de gravures et de sculptures. Pierre-François Radis vient d'adapter le récit de Richard Morgève, le Cherokee. Ce roman crépusculaire met en scène le shérif Nick Coway, toujours traumatisé et hanté par l'assassinat de ses parents. Il enquête sur la disparition d'une femme, la réapparition d'un tueur en série, le dindon, et la disparition d'une ogive nucléaire par des fanatiques et suprématistes religieux. Nous sommes au milieu des années 50 dans l'Ouest américain. Le récit est narré par Nick Coway lui-même et laisse une large place à ses voix off. Il commente les scènes avec un cynisme ravageur et ironique, une marque de fabrique du roman noir et du style de l'auteur. Dans sa mise en image, Pierre-François Radis utilise la matière sombre du fusain et ou de sa poudre. S'ensuit des dessins où la seule présence du blanc est celui des bulles. Les scènes sont baignées dans des atmosphères chargées, des ambiances poisseuses. Les extérieurs sont toujours dans ces tons de cieux grisâtres, animés par l'estompe du fusain. L'auteur soigne particulièrement les décors, les arbres impressionnants, mais aussi les intérieurs qui témoignent de vies quotidiennes précaires, comme celle du tenancier et orfèvre du Golden Hotel, une adaptation pleinement réussi. Nous sommes avec Pierre-François Radis pour discuter de cette adaptation et de sa mise en image. Bonjour Pierre-François Radis.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Alors, ma première question est sur cette adaptation. Et, alors, est-ce que vous avez rencontré Richard Morgève? Est-ce qu'il a participé à l'adaptation ou au contraire, vous vous êtes pleinement approprié son récit et l'avait porté seul?
Eh bien, tout d'abord, c'est un livre, ce point de départ de ce projet, c'est l'échange avec mon éditeur avec qui j'avais déjà fait un album en 2022. Et on s'est échangé comme ça plusieurs romans pour une potentielle adaptation. Et je crois que le Cherokee, c'est mon éditeur qui me l'a proposé. Et lors de la lecture, j'ai pris une vraie claque sur l'écriture de Richard Morgève, qui est vraiment incroyable. J'avais pas l'habitude de lire ce genre de roman aussi coupé au couteau, avec des chapitres très courts, des phrases choc presque à chaque page. Et du coup, je suis un peu tombé amoureux de ce récit-là. Et donc, du coup, on a convenu avec mon éditeur de ne pas rentrer tout de suite. Alors, mon éditeur était en contact avec Richard Morgève, mais que moi, justement, j'ai les mains complètement libres sur ma réinterprétation, en tout cas ma place que j'aurai dans ce projet, pour ne pas faire des choses en fonction d'eux, ou en tout cas ne pas être complètement libre. Et donc, du coup, j'ai travaillé l'écriture. Donc, l'écriture, c'est une écriture libre, parce que c'est une adaptation libre. Et donc, du coup, j'ai transformer ça en scénario de BD. Et puis ensuite, j'ai fait mes 200 planches en storyboard. Et c'est une fois que le storyboard a été fait, que les dialogues, du coup, dans le storyboard et que le dessin est à peu près mis en place, c'est à ce moment-là qu'on l'a envoyé à Richard Morgièvre. Et là, il y a eu une rencontre avec lui à ce moment-là. Mais avant, j'ai travaillé de façon libre et détachée.
Alors, Pierre-François Radis, comment se fait cette adaptation? C'est-à-dire, bon, il y a les dialogues du roman, des descriptions. Comment vous coupez? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous écartez? C'est quoi la cuisine à ce moment-là?
Eh ben c'est tout ça l'enjeu, en fait, parce que surtout le roman de Richard, il est extrêmement dense et il se passe encore plein de choses que j'ai dû écarter, effectivement, parce qu'il faut faire des choix. En fait, en roman, on peut bien plus faire des allers-retours. Par exemple, un personnage peut aller 3, 4 fois, 5 fois dans un même lieu à plusieurs moments différents. Et en fait, en bande dessinée, le fait de montrer le déplacement d'un personnage, bah, ça prend du temps, ça prend de la place. Et déjà, bah, le livre a 200, ma BD a 200 pages qui sont déjà quand même denses. On peut pas tout mettre. Et donc là, il y a tout l'enjeu de l'écriture, de transformation d'un roman en scénario de bande dessinée. Bah, c'est faire des choix. Alors, faire des choix, c'est renoncer. Il y a des choses qui me plaisaient dans le livre que j'ai pas pu mettre, mais c'est au service d'autres choses que j'ai pu mettre en avant. Et d'avoir ce côté très lisible. Parce que en roman, je trouve qu'on peut rester très flou pendant un très nombre de pages et de comprendre des choses par la suite. En bande dessinée, vu que c'est visuel, tout de suite, un nouveau personnage, faut l'introduire. Une nouvelle intrigue, faut la comprendre. Et donc, du coup, il y a des choses qui sont intrinsèques, on va dire, à la bande dessinée. Et on n'a aussi pas le choix pour ne pas trop perdre le lecteur. Mais ça a été un travail, vraiment, c'était la première fois que j'adaptais un roman. Et ça a été un travail pour moi extraordinaire de pouvoir mettre en valeur ce que j'aimais, écarter ce que je voulais moins parler. Et donc, du coup, ça a été vraiment un travail très, très agréable.
Alors, vous parlez de ce que peut sous-entendre le roman, mais dans votre bande dessinée, Pierre-François Radis, il y a aussi ces sous-entendus qui sont importants. Avant qu'on découvre que le personnage qui a cette voix off, qui narre le récit, est Nick Corey, il va se passer quelques pages quand même. Donc, est-ce qu'il y a une retenue des informations que vous organisez aussi tout au long de cette histoire?
Oui, bien sûr. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. On s'amuse aussi à jouer avec le lecteur. Sans raconter la fin, à la fin du livre, il y a un peu ça aussi. Il y a cette chose, il se passe des choses à la fin, vraiment à toute fin de la bande dessinée, et qui laisse des émotions, et à chacun de vivre sa propre émotion avec cette fin qui peut paraître brutale. Et donc, du coup, il y a ça aussi, c'est qu'on s'amuse à jouer avec les émotions du lecteur. Et c'est ce que j'aime aussi dans l'écriture de Richard et puis des romans noirs comme ça, c'est cet humour un peu noir et le fait que effectivement des fois on cache, et ben la partie cachée elle est aussi visible avec ce tueur en série qu'on ne voit réellement pas beaucoup, ou en tout cas quelques morceaux de petits visages très furtivement dans l'ombre, mais c'est un personnage qui reste dans l'ombre justement. C'est pas parce qu'on met en image qu'on doit tout mettre en image. Donc il y a quand même ce jeu effectivement de qu'est-ce que je montre en dessin et qu'est-ce que je mets dans l'ombre, et qui est justement garder aussi l'âme du texte qui est le roman, l'imaginaire de chaque lecteur.
Alors, comment justement avez-vous travaillé à la fois les récitatifs, donc avec cette voix off de Nick Corey qui commente à la fois ce qu'il fait, ce à quoi il assiste, et puis les dialogues comment les avez-vous associés à l'image? Est-ce qu'il y a une étape particulière ici?
En fait, ça a été plutôt assez naturel et intuitif, ce travail-là. J'aime beaucoup, j'ai essayé en tout cas par moment de justement, alors c'est pas un décalage entre la voix et l'image, mais c'est-à-dire de pour pas que ce soit redondant, de ne pas raconter en voix off ce que le lecteur va voir naturellement en dessin. Et donc du coup, les dialogues, c'est vraiment essayer de se fixer sur la relation entre les personnages, quelle est leur intention, qu'est-ce qu'ils racontent. Et puis cette voix off, c'est vraiment sur l'intime de Nick Corey qui nous raconte son histoire, qu'est-ce qu'il ressent lui au fond de lui, et où est-ce que tout ça le mène Et donc il y a toute une évolution dans la psychologie de ce personnage qui est vraiment propre à lui. Et en fait, les dialogues sont plus là pour justement nous rappeler qu'il y a deux enquêtes à mener, le croisement entre ces enquêtes, et puis la relation que Nicoré peut avoir avec d'autres personnages, notamment avec un agent du FBI.
Alors, dans le texte et dans les dialogues, notamment de Richard Morgeb, il y a un cynisme qui est un peu propre au genre. Et là aussi, comment l'avez-vous travaillé, Pierre-François Radis ? Est-ce que vous utilisiez la voix haute pour vérifier la continuité de ces dialogues et leur côté incisif ? Comment s'est passée cette tonalité du passage du roman à la bande dessinée ?
Oui, c'est exactement ça, on lit à voix haute. Après, effectivement, je suis tout seul à travailler sur ce projet, mais finalement, je ne suis pas tout seul. Il y a mon éditeur des éditions Sarbacane qui était là aussi en relecture, si j'avais des questions et si besoin. Sur la vraie question que je me suis posée à un moment, c'est sur la violence et le cynisme, effectivement, dans le ton de Richard, sur certaines scènes d'extrême violence et qui sont décrites de façon très, très visuelle dans le roman. Et donc, du coup, il y a un choc, il y a une dureté, et à la fois mélangée avec des teintes d'humour et de cynisme, comme on l'a dit. Et la vraie question, c'était comment j'allais mettre ça en image. Parce que un texte, ou même si on imagine le pire dans une description d'image, c'est pas pareil que d'avoir une image dessinée qui décrit avec plus ou moins de réalisme une action ou quelque chose de très violent. Et ce que j'ai aimé faire dans ce livre, c'est justement toute la montée de la violence dessinée avec une apogée qui n'est pas visuelle justement ou qui est dans le texte. C'est-à-dire que là, vraiment la scène la plus violente qu'on pourrait qualifier vraiment de très dure à soutenir, et ben l'image, c'est un magnifique décor sur la côte avec un joli soleil, voilà, quelque chose de très lumineux, de très beau, avec des belles maisons de côte, et à la fois on a un énorme contraste avec ce texte très violent, très dur. Et donc du coup, ça a été une vraie question. Et ça passe par la lecture, effectivement, de se relire, de se re-relire. Et puis, il y a eu une différence entre le scénario écrit et le passage au storyboard. Parce qu'effectivement, mettre des dessins, ça change des fois des perceptions. Et j'ai fait des changements au storyboard qui n'étaient pas inscrits au départ dans le scénario, par exemple.
Pierre-François Radis, est-ce que vous avez eu les retours de Richard Morgeb une fois les planches terminées ?
Oui, oui, oui. Alors moi, je l'ai rencontré plusieurs fois et là, on garde une correspondance ensemble. J'ai un lien très fort avec Richard Morgeb parce que il s'est passé une rencontre. La première fois qu'on s'est rencontrés, en fait, pour l'anecdote, cet album n'était pas destiné à être noir et blanc à toute base. C'est-à-dire que j'ai lu ce bouquin, j'ai adoré, je me suis dit, il faut que j'en fasse une BD, vraiment, ça m'a beaucoup parlé. Les sujets évoqués avec ce personnage central et ce qu'il ressent m'a vraiment touché, et je l'ai imaginé en couleur, et donc naturellement, parce que j'avais fait mon album aussi précédent en couleur, donc naturellement, je voyais mes planches et mon dessin, et j'ai imaginé les choses en couleur. J'ai commencé, du coup, à écrire, faire mon storyboard, on l'a envoyé à Richard, il a fait vraiment des retours très positifs sur le storyboard, avec juste deux petits questionnements qui étaient très très pertinents, voilà, simplement, et puis j'ai commencé à faire mes planches. J'ai commencé à ancrer, à faire ma poudre de crayon couleur noire pour estomper et faire tout mon côté brumeux, et je suis monté à Paris voir mon éditeur pour lui déposer les planches pour le scan, et en fait on avait rendez-vous avec Richard Morgeb, et là il y a eu une rencontre avec lui où justement je lui ai montré les originaux, et pendant une heure on a discuté, et vraiment ça a été un choc pour moi, parce qu'il a... Il a dit des choses que j'avais besoin d'entendre. Moi, le noir et blanc, ça me faisait peur parce que le noir et blanc, un artiste, il est nu avec son noir et blanc. La couleur rend tout de suite une ambiance et colmate un peu, entre guillemets, peut colmater, entre guillemets, les failles d'un dessin. Et donc, le noir et blanc, on est vraiment face au dessin pur. Et moi, ça me faisait peur. Je suis un peu angoissé là-dessus. Et donc, du coup, il m'a dit des choses que j'avais besoin d'entendre. Il m'a vraiment parlé de ce côté justement charbonneux, de toute l'ambiance, comme les films des années 50, tout ça, on a beaucoup parlé de ça. Et je suis reparti de là complètement assommé. Et c'est marrant parce que vraiment, on est rentré avec mon éditeur au bureau et on s'est dit, mais moi je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on ferait pas du noir et blanc ? Et il m'a dit, moi je te suis, on y va, banco. Et c'est vraiment la meilleure décision. Et vraiment, je suis attaché à lui maintenant parce que même en tant qu'artiste, il s'est passé quelque chose, c'est vraiment une rencontre, donc c'est plus qu'un projet pour moi, ce livre.
Alors, Pierre-François Radis, je vous propose une pause musicale et puis on se retrouve pour parler un peu plus dessin et ambiance d'atelier. À tout de suite.
Très bien, à tout de suite.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Pierre-François Radis qui vient d'adapter le roman de Richard Morgeve, God Bless America. Le roman s'appelle Le Cherokee et la bande dessinée est God Bless America. C'est publié par les éditions Sarbacane. Alors, Pierre-François Radis, comment se passe cette partie dessin. Il y a une matière constante dans l'ensemble de vos images, notamment sur le travail des cieux, avec cette façon d'animer les fonds pour donner ces ambiances un peu poisseuses. Comment ça se passe, cette partie-là?
Eh bien, c'est marrant parce qu'en fait, je viens d'une formation où j'ai appris à faire de la gravure, notamment de l'eau forte, avec de l'aquatinte, la manière noire, tout ça. Donc c'est vraiment des techniques de dessin qui sont une vraie cuisine avec énormément justement de matière et texture. Et j'ai apprécié énormément ce travail-là et ces rendus-là. Et donc en BD, j'ai toujours à cœur d'avoir ce travail fait main. Et j'ai toujours voulu essayer de tendre à rendre justement de la matière comme ben, presque l'image quand un lecteur tiendra la BD dans les mains, presque il pourrait croire que toucher des originaux entre guillemets. Et donc du coup pour ce travail-là, j'ai fait plusieurs tests et donc il y a un travail à l'encre de Chine à la plume traditionnelle, un ancrage noir, et pour justement ce côté que vous soulignez, gueuteux, brumeux, fumeux, charbonneux, enfin voilà, tous ces termes-là, et notamment les ciels, effectivement. Eh ben, j'ai pas voulu utiliser du fusain parce que c'est très volatile et ça me plaisait moins, j'arrivais à faire moins de nuances. Et donc du coup, j'ai trouvé cette méthode de poudre de crayon de couleur. Donc c'est du fait maison, je décortique avec une lame de cutter les crayons de couleur noirs. Donc j'enlève tout le contour en bois et il me reste les mines que je broie finement pour obtenir une petite poudre que je viens dispatcher sur mes planches et je viens frotter avec plus ou moins de force, plus ou moins de poudre, avec des petits chiffons et autres petites lingettes. Et ça me permet d'avoir ce côté presque un peu même la vie de dégradé, plus ou moins fort. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir des planches de nuit et des scènes violentes qui pourraient se passer dans l'ombre et jouer justement entre la lumière et l'ombre. Donc ça a été un travail assez minutieux qui m'a beaucoup plu, ce travail en noir et blanc. Le fait d'avoir choisi de partir sur un album noir et blanc, j'y suis allé à fond.
Alors Pierre-François Radis, faut que je retrouve mon. Je suis parti sur une idée dans ma tête et il faut que je la retrouve. Alors comment se passe la conception, la visualisation des doubles pages? Est-ce que vous posez d'abord les ambiances des différentes cases et après va arriver les personnages, ou au contraire, est-ce que c'est le déroulé du récit qui va d'abord ainsi poser les unités de narration? Comment se passe cette partie de la visualisation de la double page, donc en fait du storyboard aussi, quoi?
Oui, bien sûr. J'ai vraiment... c'est quelque chose d'assez... Enfin, dans mon travail, j'aime bien que tout soit un peu dans l'ordre et soit propre. Et donc, du coup, j'essaie de faire attention à la taille de mes cases les unes par rapport aux autres dans une page, et aussi d'une page gauche à une page droite pour pas qu'il y ait de déséquilibre graphique. Et donc, du coup, il y a cette composition qui se met en place. Et cette composition, elle est effectivement due à est-ce que c'est une scène d'action, est-ce que c'est plus une scène de dialogue, est-ce que c'est une scène où il faut que le lecteur y comprenne quelque chose d'important, donc est-ce que la mise au point doit se faire sur quelque chose de précis, est-ce que c'est un moment de la BD où le personnage change de décor, donc du coup il faut faire comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre les deux scènes, est-ce que c'est un changement de scène aussi ou pas. Et donc en fait ces questions-là, elles sont abordées effectivement, vous avez raison, au storyboard. Alors déjà, il y a un prémisse à l'écriture, évidemment, du passage roman à scénario BD. Effectivement, là, c'est là où on fait des découpages de scènes, etc. Et là, le fait de travailler le scénario et le dessin, ça me permet déjà, moi, d'avoir une visualisation de mon scénario. Et après, effectivement, ça se fait au storyboard et le découpage de cases. Et vraiment, j'essaie de le mettre en place le plus propre possible à mon storyboard, de façon au passage à la planche finale. Il y a des changements, mais que ces changements soient pas de l'ordre de l'écriture, justement, et que tout le travail de composition ait été fait en amont, et que justement ce passage en planche originale soit vraiment une question de dessin, d'équilibre de valeur, de masse, et plus des histoires de composition et justement de personnages qui doivent se déplacer dans un décor ou faire comprendre les choses. Donc il y a vraiment ces deux étapes, écriture storyboard et dessin pur, on va dire, avec les planches.
Alors, Pierre-François Radis, comment se passe cette relation entre les personnages et les décors? Vous êtes très attentif aux décors, on a les architectures, les arbres sont très présents, ont une grande force. Et puis, il y a des personnages qui sont beaucoup plus stylisés. Et on a le même genre de décalage que Tardy a dans ses bandes dessinées. On a des architectures qui sont toujours réalistes avec des personnages très stylisés. Alors, est-ce que c'est vraiment un choix de votre part et qu'est-ce que ça vous permet ?
Oui, c'est un choix, mais c'est aussi une façon de dessiner assez naturelle pour moi. Donc, c'est pas des questions que je me pose réellement quand je dessine. Je dessine de façon assez naturelle. Et dans tous les cas, je voulais pas des personnages réalistes. Ça, c'est vraiment une volonté de ma part. Je veux qu'il y ait un décalage entre une BD qu'on appelle semi-réaliste ou réaliste, parce que je voulais qu'il y ait un décalage sur les scènes justement de violence. Déjà que c'est quand même assez violent avec le sang, le fait d'être en noir et blanc, ça adoucit, puis le fait d'avoir une stylisation, ça adoucit aussi. Le parti pris aussi, c'est d'avoir, surtout pour ce shérif Nicoré, d'avoir une gueule, entre guillemets. C'est-à-dire qu'un personnage réaliste, dans les BD, pas tout le temps, mais souvent, il est plus lisse. Là, je me suis permis d'avoir vraiment une mâchoire, d'avoir quelque chose de plus fort graphiquement, parce que justement, j'ai des libertés de dessin. Et par contre, le décor, il est presque considéré comme un personnage, parce qu'il est extrêmement important dans la bande dessinée, parce que je voulais quelque chose de très immersif pour le lecteur. En fait, dans mes bandes dessinées, même si c'est pas documentaire, même si c'est pas historique, il y a un vrai contexte. Mon ancienne BD sur Al Capone, bah, c'était la Prohibition. Et là, c'est une Amérique des années 50, une Amérique rurale des années 50, de l'Ouest. Et je veux que le lecteur, en fait, il soit pas trompé. Je veux pas, même si c'est pas historique et documentaire au moindre petit détail, je veux pas tromper le lecteur et je veux qu'il soit le plus immergé possible dedans. Et donc, du coup, le décor fait vraiment partie de ça. Un décor minimaliste, je trouve qu'on a tout de suite une distance et on est un peu moins dans une ambiance forte. Et donc du coup, par exemple, notamment les arbres, quelque chose de très, dans une forêt sombre, il y a toujours quelque chose de très particulier, presque intimiste, qui fait peur de rentrer dans une forêt sombre. Et donc du coup, bah, c'est pour ça qu'il y a des grands arbres, ces grands sapins. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu la pousser, qu'elle soit très présente et souvent très noire, très sombre.
Alors, vous êtes aussi graveur et sculpteur, donc un artiste nomade. Quelles sont les perméabilités entre ces trois médiums, entre ces trois arts? Comment ils se nourrissent l'un l'autre?
Oui, c'est y a presque pas de distinction pour moi. En fait, c'est très la simple différence entre, par exemple, une BD, une bande dessinée comme celle de God Bless America et puis une gravure. C'est dans une BD de 200 pages, je peux pas faire 200 gravures. Mais c'est pour ça que j'expliquais que inconsciemment et consciemment aussi, je tends à avoir beaucoup de matière et texture. Et ce lien avec la gravure, il est très très fort, notamment avec ce cernet noir et cet encre, voilà, ce travail à la main. La sculpture, c'est vraiment l'histoire des lumières et des volumes. C'est... Sur cet album, les lumières qui tournent sur les visages, les ombres sous les chapeaux, les lumières au niveau des yeux comme dans les films des années 50, les jeux de miroirs pour éclairer uniquement les yeux d'un personnage, et cette lumière qui tourne, et en fait ça c'est vraiment la sculpture. La sculpture c'est vraiment de la lumière, le volume est créé aussi par la lumière qui s'enroule. Et donc du coup j'ai ce lien entre tous ces médiums, et en fait c'est marrant parce que quand je fais beaucoup de bandes dessinées, à la fin, j'ai qu'une envie, c'est de repasser en volume. Quand je fais beaucoup de volume, j'ai qu'une envie, c'est de faire de la gravure. Quand je fais beaucoup de gravure, c'est retourner à la bande dessinée. Donc en fait, j'ai pas le temps de m'ennuyer. En fait.
Comment se passe le travail au quotidien? Quelle est l'ambiance dans votre atelier? Il y a de la musique, la radio. Vous êtes très attentif, très précis dans votre façon de travailler sur la planche, ou au contraire, il y a plus d'énergie, plus de... Comment ça se passe? C'est des questions que lecteurs, on ne peut pas avoir de réponse en lisant l'album, donc j'en profite pour la demander.
Bah oui, vous avez raison. Mon atelier, je l'aménage, j'ai de la chance d'avoir un grand atelier, je l'aménage de façon à m'y sentir bien, parce que j'y passe énormément de temps du coup, parce qu'évidemment un album de 200 pages, c'est plusieurs années, c'est deux ans et demi de travail, donc il faut que je m'y sente bien. En fait, c'est un cabinet de curiosité, j'adore ramasser plein de petites choses que j'ai volées dans la cave de mes parents tout au long de ma vie, des petites choses que je trouve en brocante. Donc il y a plein de cadres au mur, avec plein de dessins, plein d'artistes différents, plein de petites babioles, de petits objets de mon enfance, ou de petites choses que je chine à droite à gauche. Et puis j'ai ce côté un peu maniaque et psychorigide, donc ça veut dire que je travaille très proprement. Alors, sur mon bureau, c'est très sale, mais sur mes planches, ça doit être très propre. Donc je scotche autour de mes cases pour pas salir quand justement je mets ma poudre et que je frotte partout. Je veux que quand j'enlève mon scotch, ça soit bien blanc, bien propre. Et donc il y a un côté très très précis dans cet album où justement j'utilisais ma petite plume avec mon encre de Chine noire et ma poudre, et que chaque session de poudre, je nettoyais, j'avais un coin poudre spécial que je salissais là-bas pour pas salir le coin où je faisais que de l'encre, etc. Donc il y a un côté assez corrigide sur le côté, voilà, il faut que ça reste un peu propre sur mes planches. J'ai pas ce côté artiste qui pourrait bah, par exemple faire des tâches pour commencer très libre. C'est quelque chose que j'ai beaucoup envié à certains artistes, même d'auteurs de bande dessinée, qui étaient très libres dans leur dessin et qui étaient très sans cases, sans contours, et qui cadraient presque après au niveau des cases. Moi je suis plus dans le contrôle, pour essayer justement de lâcher prise dans mon dessin, Et tout en ayant le contrôle, bah justement, d'avoir mes contours de case tout propres et d'être dans mon petit atelier avec un petit fond sonore toujours. Donc la musique qu'on vient d'écouter, un petit blues, c'est très bien. Et suivant la phase de travail, j'écoute pas la même chose. Pendant l'écriture de scénario de storyboard, je vais pas pouvoir écouter la radio ni les podcasts. Il faut que ce soit uniquement de la musique et puis que ce soit pas de la musique où je puisse chanter. Donc voilà, un blues, musique. Américaine. J'ai pas mal écouté pour cet album pour mettre dedans de la folk country américaine aussi. Et quand je suis dans des phases vraiment juste de mise en grille avec ma poudre, là je peux me permettre d'écouter la radio et des podcasts.
Merci beaucoup Pierre-François Radis. Je vais rappeler les caractéristiques de votre livre. Donc God Bless America, adapté du roman de Richard Morgeve, Le Cherokee. C'est publié par les éditions Sarbacane. Les 208 pages de votre roman graphique ont été imprimées en France. C'est une des marques de l'éditeur. J'ai pas souvenir du prix. Est-ce que vous l'avez?
29,90.
Combien?
29,90.
Voilà, donc 30 euros. Voilà. Et ben c'est parfait. Merci et très bonne continuation
à
vous.
Vous.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Je voudrais terminer cette émission avec le livre d'Isabelle Autissier et de Zelba, Une bouteille à la mer. C'est un livre important parce que il y a dans le documentaire dessiné toute une partie qui est tout à fait pertinente où l'auteur essaye d'adopter un point de vue plutôt de néophyte et de faire du livre, du documentaire, une sorte de démarche citoyenne. Et c'est d'autant plus pertinent que la bande dessinée s'adapte parfaitement à ça. C'est le cas d'Une bouteille à la mer, écrit par Zelba, qui est une autrice dont j'ai présenté plusieurs livres. On l'a même entendu à l'occasion de ces deux derniers livres, dont le grand incident sur le Louvre, qui reste un livre tout à fait remarquable. Et là, avec Une bouteille à la mer, il y a de suite une mise en place d'une sorte de fiction qui est savamment trouvée. Puisque, en fait, Zelba va découvrir une bouteille sur la plage, et c'est en fait Isabelle Autissier qui lui demande de travailler sur un livre sur les océans. Et c'est parti. Et donc, cette petite astuce, déjà, nous met en joie. Un peu plus de précision sur le récit. Au milieu de l'océan Arctique, Isabelle Autissier confie à la mère un SOS dans une bouteille à l'attention de Zelba avec l'envie de faire un livre à deux. L'une est une navigatrice de renom, première femme à avoir fait le tour du monde en solitaire, présidente d'honneur WWF France et spécialiste de la mer. L'autre, une autrice drôle et engagée qui fut championne du monde junior d'aviron. C'est pas rien ça. Ensemble, elles vont à la rencontre de personnes d'horizons différents, ayant en commun la protection des mers et des océans. Des spécialistes comme le biologiste François Gail, le professeur en écologie marine Didier Gasquel et l'ambassadeur des pôles et des océans Olivier Poivre d'Arvor. Ou encore la présidente de Sea Shepherd France, Lamia Essemlali. C'est des témoignages et de très beaux souvenirs de mer racontés par Isabelle Autissier. Et Zelba a réalisé ainsi un reportage. Bah, ça va être presque comme une nouvelle bouteille à la mer, avec ce côté de tension qu'il y a dans cette expression « jeter une bouteille à la mer ». La situation est grave et ça sera peut-être une façon de trouver une planche de salut. Le livre est dense, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est un peu le principe des documentaires dessinés, puisque l'idée c'est d'avoir un fond qui est pertinent, documenté, étayé, et qu'il va y avoir le déroulement d'un argumentaire pour que ce récit sur les océans donc sur les pôles, il va falloir que le message passe. Alors bien sûr, on entend en permanence toutes les alertes sur le climat. Donc là, il faut qu'on change de niveau et qu'on soit beaucoup plus précis, profond, d'où les rencontres avec des spécialistes en l'occurrence, qui ont une parole reconnue par leur pair, mais aussi au niveau international. Et donc, on va vraiment pouvoir se constituer un avis beaucoup plus documenté, beaucoup plus précis. Et ce récit s'inscrit dans cette démarche, c'est-à-dire que Zelba, en fait, elle va adopter ce point de vue d'une personne qui ne comprend pas forcément, qui n'a pas forcément les outils pour pouvoir pleinement avoir un avis important, avoir une position plus précise, avoir même la possibilité de s'engager plus pleinement. Et donc, là, on a vraiment cette démarche citoyenne dont Zelba adopte le point de vue, le regard, et ça va passer aussi par le dessin. Alors la bande dessinée a le très gros avantage, c'est d'être justement du dessin, de ne pas être tributaire à un support réaliste comme l'image filmée ou la photographie, même si maintenant leur véracité est remise en question par l'intelligence artificielle ou continue de l'être. Mais il y a la possibilité de mettre en scène des séquences sur lesquelles on n'a pas d'image, par exemple, ou au contraire, de mettre de télescoper des éléments qui ne sont pas forcément possibles avec un élément fantastique ou quelqu'un dans un décor qui va être très différent où il a l'habitude d'être. Ça passe par exemple par un moment, Isabelle Autissier, Zelba trouve que laisse pas suffisamment de place et elle dit « Mais c'est moi qui suis maître de la mise en image et si je veux te représenter en caniche, je te représente en caniche. » Et elle le fait. Donc on a des séquences, une séquence où pendant plusieurs pages, Isabelle Autissier, ça sera un caniche qui sera à table avec les experts. Et dans la bande dessinée, ça passe parfaitement par... par cette capacité, par cette potentialité que le médium du dessin a en lui-même et qu'il peut tout faire. Et là, ça devient très réjouissant parce que c'est plus du tout ennuyeux où on est pas à pas sur le cheminement de cet argumentaire du documentaire, mais au contraire, on a une mise en image qui va toujours, eh bien, à la fois porter cet argumentaire et puis aussi montrer comment il peut y avoir de l'ironie, de l'humour et faire que le contenu soit aussi moins plombant. La situation est dramatique, c'est une crise mondiale. On a une très fâcheuse tendance à fermer les yeux, ou en tout cas les États ferment les yeux. Et là, eh bien, on a la possibilité de revenir là-dessus, d'avoir des éléments concrets, des informations précises, toujours pertinentes, de pouvoir réagir, de pouvoir argumenter nous-mêmes désormais après la lecture de ce livre. Et ça, c'est extrêmement précieux. C'est même essentiel. C'est la grande évolution de ces 30 ou 40 dernières années, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de savoir pour participer aussi à l'évolution de nos sociétés. Et le documentaire dessiné tient pleinement cette tâche, et avec des images fortes, eh bien, nous devenons aussi des citoyens pleinement engagés et responsables. Et puis là, il y a en plus l'humour de Zelba qui a fait quelques trouvailles pour cette mise en image absolument réjouissante. Une bouteille à la mer d'Isabelle Autissier pour la partie scientifique, l'écriture, mais c'est surtout Zelba qui va mettre en récit, en image, cette rencontre. Et c'est publié par les éditions Futuropolis. Les 160 pages de ce livre sont au prix de 24 euros. Je vais vous dire aussi le lieu d'impression. Eh bien, c'est en France, chez un très grand imprimeur. Et ce serait d'ailleurs même important qu'on puisse découvrir ce que représente l'impression de la bande dessinée en France, qui n'a pas beaucoup de spécialistes, d'imprimeurs spécialisés dans le domaine. Merci Issa pour cette technique. On va faire un peu de montage pour la rediffusion de samedi matin. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec une ou deux invités. En tout cas, c'est sur le livre Madone et Médée. Bonne semaine à tous. Écriture dessinée.